Petite voix, laisse-nous emprunter ton nom, toi qui jamais ne nous quittes ni ne doutes et nous plonges dans l'insomnie vagabonde.
Guide devant la complexité du monde et boussole dans les choix de chaque route, tu restes et demeures un fidèle compagnon.
Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode de La Petite Voix, notre podcast de famille engagée et militante. Tout d'abord, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous faire vos retours. Donc n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petits retours pour réussir à nous améliorer aussi. N'hésitez pas aussi à partager le podcast, on commence à toucher un peu plus de monde. Donc on commence le mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé? De joli, nos succès, nos apprentissages, ce qu'on a appris. Je pense qu'on peut commencer par un truc assez léger au niveau d'un des objectifs qu'on a réussi, c'était au niveau du potager. Tu veux en dire quelques mots?
Oui, bah, je pense qu'on a bien avancé sur cette partie-là. On a réussi à planter quasiment toutes nos semis. Je crois qu'il ne reste plus que les courges dans la verrière. Le reste, tout a été planté.
Non, il reste pas mal de betteraves et il reste nos courges aussi qu'on n'a pas plantées. Et puis, il reste aussi une douzaine, je crois, de tournesols. Donc ça, d'ailleurs, s'il y en a qui en veulent, et de la betterave, s'il y en a qui en veulent aussi, n'hésitez pas. Parce que...
On a réussi, je pense, à tenir, notamment les allées sont toujours praticables, ce qui est toujours un challenge au mois de mai-juin quand tout pousse. Je pense qu'on a réussi à passer à peu près tous les soirs à enlever ce qu'on appelle les mauvaises herbes, même si je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes mauvaises, mais on a paillé suffisamment pour garder le peu d'eau qu'il y avait au mois de mai. Et ça, je pense que c'est assez positif.
L'effet un peu positif ou négatif, je ne sais pas encore, c'est qu'avec tout le paillage qu'on a fait, on a plein de, non pas mauvaises herbes, mais plein de blé. Parce qu'on a mis de la paille.
Non, c'est pas la paille. En fait, c'est... les autres années, on paille seulement. Et là, on a mis du foin. Du coup, j'avais récupéré au mois de février du foin. Et là, le foin, je pense que c'était pas une très bonne idée. Je pense qu'on n'a pas eu ce problème-là les autres années avec seulement la paille. Et là, le foin, je pense que c'est une petite leçon. Voilà, je sais pas ce qu'on fera de notre blé. Hein. On mangera peut-être des céréales cet été.
Faire une moisson. Et un de mes objectifs, c'était de réussir à attraper un essaim d'abeilles. Et j'ai pas réussi, hélas. Donc c'est dommage. La petite ruche, elle est installée. Mais on a pas d'essaim. Donc on n'a pas de colonie. Donc on verra au mois de juin si on réussit à faire ça. Si je cède et que je vais en acheter un ou pas. Mais voilà. Est-ce que tu veux parler d'un autre petit succès?
Ouais, je me suis beaucoup formée sur la mission d'élu au mois de mai, donc avec trois formations quand même, hein, en quasiment quatre semaines. Deux formations en visio et puis une en présentiel. Une première formation sur tout ce qui est développement durable et comment, dans nos petites communes, on peut mettre en place des choses très concrètes sur le développement durable. Donc une formation très intense sur 3 heures. Après, moi, j'ai vraiment vu l'intérêt... Enfin, j'ai été rassurée, en fait, de voir que sur nos petites communes, hein, 3-4 000 habitants, on pouvait mettre en place des choses très concrètes et très rapidement. Et donc, voilà, ça m'a rassurée pour la suite. Ça m'a donné pas mal de billes pour notre futur programme, là, d'ici 2026. Voilà, on a encore 3 ans pour bosser ça. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut avancer. Donc ça, c'était très intéressant. Puis c'était une formation, on était seulement 3 ou 4, je crois. Et du coup, on a vraiment pu échanger, avancer. Enfin, voilà, très intéressant. J'ai fait une autre formation sur le CCAS. Alors là, j'étais un petit peu moins convaincue parce que je pense que du fait de... Le CCAS, pardon, c'est les centres communaux d'action sociale. On en trouve dans quasiment toutes les communes, enfin à partir d'un certain nombre d'habitants. Et en fait, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec mes élèves en classe. Donc en fait, j'ai pas eu l'impression de découvrir beaucoup de choses. Par contre, j'ai vu qu'en fait, enfin, je me suis rendu compte en échangeant avec les autres élus que notre commune avait axé l'action du CCAS, qui est normalement l'action sociale, sur seulement les petits vieux. Hein. On a un budget CCAS de 12 000 euros, 8 000 euros pour le repas des aînés chaque année. Et donc, en fait, je me suis rendu compte, même si je le savais un peu déjà, qu'il y avait possibilité, dans cette action sociale, de faire beaucoup plus de choses. Il y a des communes qui travaillent tout ce qui est autour de la précarité, pauvreté. Vraiment, ils arrivent à mettre en place des aides pour les familles. Enfin, voilà, je me suis... Là, j'ai pris conscience que vraiment on était en dessous de beaucoup de communes. Et à la formation, on était, c'était une formation aussi en visio, on était 7 ou 8. Et là, il y avait des communes de entre 4000 et 10 000 habitants. Donc c'est pas non plus des communes type Nantes où il y a des budgets de fou. Enfin voilà, sur des petites communes, il y avait vraiment des choses qui étaient faites, des choses concrètes. Donc là aussi, j'ai récupéré plein d'infos pour notre futur programme. Je pense qu'il y a, vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Et puis, la dernière journée, donc là, c'était une journée en présentiel. Je suis allée me balader à la chapelle sur Erde. Et c'était la journée des femmes élues. Donc, une journée, on était, je pense, pas loin d'une centaine de femmes élues sur... donc, c'était à Nantes. Ça rassemblait des Bretonnes et puis la région Pays de la Loire. Et l'idée, c'était d'échanger sur des problématiques qu'on partage, hein, qu'on vit de la même façon, ou pas d'ailleurs, différemment selon les territoires. Et voilà, le matin, c'était plutôt des plénières. Donc, on a notamment travaillé sur l'engagement civique et citoyen, comment on peut faire en sorte que les gens dans les communes s'impliquent, et pas seulement aller voter, hein, mais aussi s'impliquent sur du participatif, s'impliquent dans les conseils de quartier. Enfin, voilà, là, c'était vraiment très intéressante, une table ronde assez intéressante. Et puis l'après-midi, j'ai travaillé, enfin là on était en petit groupe, on était 12, et on a travaillé sur comment, ça s'appelait comment pitcher un projet en 3 minutes. Donc l'idée, c'est comment tu présentes ton projet, comment tu prends la parole en conseil municipal, en conseil communautaire, et comment tu arrives à être percutant en moins de 3 minutes. Donc là aussi, très intéressant, je suis partie avec... pas mal d'infos. Et puis c'était un... enfin moi j'ai trouvé ça chouette de rencontrer d'autres femmes, aussi des jeunes, voilà, parce que dans l'aglo c'est plutôt des, je vais pas dire des vieilles élues, mais plutôt des, voilà, des personnes qui ont 55, 60, 60, même un petit peu plus. Voilà, là je me suis retrouvée avec des élus qui avaient la plus jeune, elle avait 27 ans, et puis 35, 40 ans. Enfin voilà, ça, c'était aussi agréable de voir que qu'on partageait des choses communes. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette formation, c'est qu'il y avait pas, enfin il y avait vraiment un mélange en termes de politique, et je trouve que ça crée des discussions très intéressantes. Du coup, je suis contente d'avoir osé y aller, parce que c'était pas, voilà, c'était un peu un challenge pour moi de s'inscrire déjà. J'ai fait une demande en mairie pour avoir le financement. J'ai posé une journée de congé, enfin j'ai posé une autorisation d'absence au boulot, parce qu'en tant qu'élu, on a le droit de le faire. Et puis voilà, et puis prendre le train le matin pour se retrouver dans une assemblée où je connaissais personne, c'était aussi le challenge. Voilà, sur les pauses déjeuner, sur les pauses, les temps de pause, d'arriver à créer la conversation, enfin arriver à créer les contacts. Donc voilà, je repars avec du réseau, avec quelques contacts intéressants, notamment une personne à côté d'Auray, où ils ont vraiment, c'est une liste écolo-sociale, je pense, participative, hein, comme on aurait aimé qu'elle passe à Gétigny, qui est passée là-bas. Et je me suis rendu compte qu'en quelques temps, hein, en 2 ans, ils ont réussi déjà à mettre plein de choses en place. Donc ça m'a redonné aussi un peu d'espoir, de peps. Donc voilà, c'était un peu ma fierté du mois. Et puis voilà, je vais partager aussi, toujours je suis sur la mission d'élu, moi je m'enrichis chaque lundi là avec les conversations qu'on a avec les élus, les échanges, tout ce dont on parle. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un temps très important. Et avec mes 5 coélus, voilà, même si on n'est pas encore dans le concret parce qu'on ne peut pas mettre en place des choses directement sur le terrain, en tout cas je pense qu'on balaye pas mal de sujets et on essaye de se projeter vers 2026. Voilà, même si des fois je sens un petit coup de mou parce qu'on approche du milieu de mandat et on sent qu'il reste encore quand même 3 ans et demi et qu'il va falloir trouver le peps. En tout cas, c'est lundi soir ensemble, je pense que ça nous redonne voilà, un petit peu d'énergie pour aller plus loin, continuer voilà, sur la mission d'élu. C'est déjà pas mal, on en reparlera sûrement d'autres fois. Peut-être une fierté, toi?
Nous, pour continuer un petit peu sur le niveau associatif communautaire, moi j'ai fait quelques trucs, pas autant que j'aurais aimé, mais en tout cas j'ai réussi j'ai participé à une AG de l'association du centre de loisirs dans laquelle je siège. J'ai organisé un vide-grenier pour l'association des parents d'élèves. J'ai assisté à l'AG du Moulin Neuf avec qui on est en train d'organiser un potager collectif, vous en souvenez peut-être. Donc là ça va être au programme encore ce mois-ci. Et puis une réunion aussi avec les membres du bureau, d'événements, etc. de Jetting et Collectif pour notamment organiser quelques événements là, qui ont eu lieu hier et samedi prochain. Et puis pour organiser la fameuse fête dont on parlait aussi le mois dernier là, pour faire en sorte qu'on ait un moment de remotivation un peu des troupes, de convivialité, un truc un peu pour fêter la fin du premier semestre, parce que on est tous un peu pareil, un peu en burn-out militant, de pas sentir utile, important, respecté. Donc voilà, ça je pense qu'on aura besoin de se retrouver un petit peu à un moment un peu sympa. Donc ça ce sera début du mois de juillet en fait. On le fait plus début septembre mais début juillet, donc ça c'est cool, en même temps c'est assez facile à organiser. Et par rapport, c'est quand même un succès un peu par rapport à cet engagement associatif très important que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête certains engagements pour réussir à me concentrer sur l'action de Jetting et Collectif. Là, je vois bien que les actions que je fais avec le vide-grenier, avec l'APEC, comme le vide-grenier, la kermesse, les trucs comme ça, ça me prend une énergie assez importante. Et en plus, je suis pas capable de faire les choses correctement, enfin, en tout cas, pas au niveau que j'aimerais le faire. Mes acolytes sont pas forcément alignés avec mes valeurs, etc. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que je pense que je réussis pas à trouver une place où je peux faire bouger des choses, etc. au niveau des parents d'élèves. Donc je pense voilà, je vais sortir du bureau l'année prochaine et puis je suis pas encore arrêté sur le centre de loisirs, mais voilà, je vais sûrement y réfléchir aussi un petit peu pour avoir plus de temps libre, de temps disponible en tout cas pour là où j'ai de l'intérêt quoi. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai capté ce mois-ci. Et puis, t'avais autre chose ?
Ouais. Moi, j'avais envie de parler un petit peu du boulot après la mission d'élu. Donc, le mois de mai, avril-mai, dans les lycées, c'est le moment de la répartition des postes, c'est-à-dire qu'on a un quota d'heures qu'on doit répartir par rapport à une matière. Donc, moi, dans ma matière, on est 7 profs à intervenir, et on intervient sur seconde, première, terminale, et puis première année de BTS, deuxième année de BTS, SP3S. Et du coup, l'idée, c'est que cette année, par exemple, si je prends cette année, on avait 124 heures à répartir entre nous. Donc c'est toujours un moment tendu dans les équipes parce que forcément, voilà, on a tous des choses qu'on préfère enseigner. On a tous, l'ennemi-groupe, par exemple, c'est plus, ça peut être moins de travail que des groupes classe entière parce que déjà, on répète deux fois la même chose dans la journée. Et puis en plus, on est plus dans du travail de groupe. Enfin, c'est pas tout à fait le même travail. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, cette période-là. Moi, ça fait 5 ans que je suis au lycée Jeanne Delannoy à Cholet. Ça fait 5 ans que j'interviens seulement en première. Enfin, j'ai fait un petit peu de seconde, mais voilà, beaucoup en première. Et c'était une de mes volontés déjà depuis 2-3 ans là, de pouvoir intervenir sur le niveau terminal. Je savais que ça allait pas être simple parce que j'ai une équipe sur laquelle c'est difficile. Enfin, mon équipe a plein de qualités, mais aussi une difficulté à bouger. Et donc, du coup, j'avais fait une demande de passer à 80% justement pour pouvoir un peu bouger les lignes. Je suis contente parce que j'ai osé en réunion, donc on était tous, l'équipe plus la direction, à oser dire que voilà, moi cette année j'avais vraiment envie et besoin d'aller sur le niveau terminal pour avoir un peu plus de challenge aussi au boulot. Voilà, donc j'ai obtenu ce que je voulais, c'est assez sympa. Je vais continuer à intervenir en première et je vais prendre une partie de la classe de terminale, donc de la classe entière et du demi-groupe. Et du coup, bah, par contre, c'est un petit peu flippant parce que voilà, je passe à 80% à la rentrée de septembre et il y a toute une partie des cours, du coup, notamment les cours de terminale qui sont pas prêts. Donc voilà, il y a un petit challenge, à la fois une fierté d'avoir osé aller jusqu'au bout de mes envies et de mes motivations. Et puis aussi, on en reparlera, mais il y aura sûrement une rentrée un petit peu sur les chapeaux de roue. Voilà. Une dernière fierté, peut-être, Léni ? Oui, non, peut-être.
Ouais, ouais. Pas mal. Alors, on va voir dans les facteurs limitants les trucs comme ça après, mais ce qu'il y a. Un des côtés cool que j'ai capté, c'est que j'avais envie de plus participer à des actions de désobéissance civile. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent grâce à ça. Et du coup, voilà, clairement, j'ai plus envie de faire ça que d'organiser des vide-greniers aujourd'hui. Donc voilà, on peut passer au care, à comment on a pris soin de nous, de notre famille, de nos entourages. Donc, je te passe la main.
Bah, je commencerai quand même par... La petite journée improvisée avec Hélène où du coup on s'est arrêté dans nos vies de maman et on a pris un mercredi pour partir se faire un resto et un temps à Caliceo à Nantes. Voilà, un temps entre copines où on a pris le temps de faire du vélo, de papoter toute l'après-midi et d'être ensemble. Voilà, ça faisait un moment que j'avais pas fait ça et je trouve ça sympa dans le quotidien, surtout la journée du mercredi qui est quand même pas une journée... simple, voilà, déposer mes enfants à l'accueil de loisirs et de m'autoriser à partir, bah, ça m'a fait du bien et j'ai trouvé ça très chouette, donc à refaire.
Ouais, et du coup, l'autre événement le plus, pour moi, représentatif du care, c'est le week-end de l'Ascension qu'on a passé avec la famille dans la baie de Saint-Malo, là-bas. Au niveau du Cap Fréhel, voilà, 4 jours de tranquillité, de détente, de non prise de tête, à jouer au boule, à se balader, à faire du vélo, à prendre le soleil. Ça, c'était assez chouette dans un paysage totalement magique. C'était un beau moment.
La maison était super sympa. La vue, même dans ta douche, tu voyais la mer. Donc, c'était vraiment très chouette. Voilà, on a eu un petit peu de chance sur le fait. Parce que bon, voilà, quand on prend un truc sur Airbnb, bon, bah, on peut tout avoir. Là, c'était vraiment cool. On a pris le temps, je trouve, de vivre le moment présent, c'est-à-dire... jeux de société, balade, prendre le temps de cuisiner ensemble, de passer vraiment des moments de qualité entre tous, avec les enfants, aller se baigner, aller se promener. Enfin, voilà, c'était vraiment de chouettes moments. On a même fait une petite balade à vélo et au Cap Fréhel. Ça monte un petit peu, donc ça c'était un petit peu intense, mais très chouette.
Ouais, c'est ça. Du coup c'est tout pour la partie care. Par contre ce week-end en famille, il nous a mis un petit peu dans une position un peu spéciale. En amont, on a moi je sais que je les ai pas mis dans les succès, mais j'ai réussi à écrire deux articles justement un peu coup sur coup en début du mois. Que j'ai partagé sur mon blog. Le premier, c'était sur l'éco-anxiété. C'est un article que je traînais depuis pas mal de temps parce que pour moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi les jeunes sont touchés par l'éco-anxiété plus que les plus vieux. Et puis l'autre, là, donc je reviens un petit peu sur d'où je suis parti, c'est par rapport à la différence entre les modes de vie. En fait, quand on a des proches, des amis, de la famille, etc., c'est difficile en fait de changer de mode de vie. C'est nous qui avons changé évidemment par rapport à cette question de l'effondrement qui nous fait peur. Du coup, ça nous a poussé à modifier tout notre mode de vie que vous connaissez peut-être. Et en fait, on se rend compte que nos amis, enfin en tout cas certains amis, certains membres de notre famille, sont dans une posture de déni total, de se voiler la face complètement, juste aussi parce que probablement ils se sentent impuissants. Mais le fait qu'ils bougent pas, le fait qu'ils se sentent pas concernés, nous désolidarise aussi d'eux finalement petit à petit. Et ça c'est une double couche d'angoisse en fait, parce qu'on se dit on n'a aucune envie de voir ces liens se déliter au fur et à mesure que nous on va dans un sens enfin dans l'autre sens finalement, on cherche à décroître, on cherche à être sobri, en sobriété heureuse, etc. Alors que on voit partout à côté, partout ailleurs, bah la recherche de croissance, la recherche d'accumulation, la recherche d'achat, de consommation, c'est bah, ce genre de choses nous inquiétait un petit peu avant ce week-end à l'Ascension. On savait pas si on allait être capable de faire comme si tout allait bien, parce que tout va pas bien. Et on se posait la question de si on le devait même, en fait, au-delà de le pouvoir, d'être capable de faire semblant, de jouer d'hypocrisie, est-ce qu'on devait faire ça, en fait ? Est-ce qu'on doit laisser les gens tranquilles ? C'est une question qui me travaille encore, qui nous travaille, je pense, toi aussi, Marion. Est-ce que le fait de simplement être exemplaire, le fait simplement être inspirant pour les gens, créer un podcast qui blablabla parle de ce qu'on fait, que les gens, quand ils nous croisent, après ils nous disent « Ah là là, je sais pas comment vous faites pour... » voilà. Est-ce que ça suffit en fait ? Est-ce que ça c'est efficace ? Ou est-ce qu'on ferait pas mieux justement de passer à l'étape d'après, de dire « Ok, on vous a tendu la main, vous l'avez pas prise, bah tant pis et... » Soit on coupe la main et on se crève le cœur en même temps, parce que moi, ça me crèverait le cœur de tracer un trait sur les gens vraiment que j'aime. Voilà, ça c'est vraiment la grande question philosophique existentielle même qui nous anime en ce moment. Moi je peux pas me dire que ce qu'on fait n'est pas efficace en fait, sinon j'arrêterais mon combat. Si je savais que ça, qu'il y avait rien qui était possible, je tenterais rien en fait. Mais là, je pense que c'est possible d'agir ensemble. Je pense que c'est possible. Mais le fait que mes proches, j'arrive pas à les toucher là-dessus, ça me rend vraiment profondément triste. Et c'est ça qui me fait retomber dans l'éco-anxiété en fait systématiquement et me rend très difficile à revenir là aujourd'hui. Depuis le début du mois, en fait, je suis incapable de remonter sérieusement, en fait, de cette éco-anxiété. Et ça, c'est difficile parce qu'on a beaucoup de remarques aussi. On a beaucoup de jugements qui sont parfois dits avec des mots et parfois juste des ressentis. On se sent vraiment à côté de la plaque quand on est invité à un mariage et qu'on dit on mange pas de viande et qu'il n'y a rien qui est prévu. C'est un détail, mais on en est encore là en 2022. On se sent vraiment mal quand les gens comprennent pas qu'on appuie WhatsApp. Enfin, moi je l'ai encore parce que mon téléphone, je vais l'emmener jusqu'à ce qu'il meure. Mais le téléphone de Marion, ben, il est mort. Bah, elle a pas racheté de smartphone, elle a plus WhatsApp, puis elle se fait engueuler, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est injuste, c'est que nous, on n'engueule personne, alors qu'on trouve que le mode de vie est difficilement soutenable aujourd'hui. On en parle quand vous voulez, hein, mais c'est difficile aujourd'hui d'imaginer qu'on continue comme si de rien n'était. Et nous, on se fait emmerder, quoi. Et on a l'air fort, on a l'air solide dans nos croyances, dans nos convictions. Moi, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on me dise « Ah, bah vous êtes vachement avancé. » Mais en fait, à chaque fois qu'on se prend ce genre de tacle, même sympa, hein, c'est difficile et ça nous fait tomber à terre, en fait. Donc... on se pose vraiment des grandes questions par rapport à tout ça. Quelle stratégie adopter pour embarquer les gens avec nous, nos proches ? Parce que moi, il y a plein de gens, j'en ai rien à foutre, qui viennent pas avec moi, qui fassent leur merde. Mes proches, c'est difficile, quoi. J'y arrive plus, quoi. Je peux pas me résoudre à ce qu'on ait des relations factices, artificielles totalement, où on parle de la pluie et du beau temps, où on ne parle jamais vraiment de ce changement structurel et fondamental qu'on doit opérer, quoi.
C'est le choix qu'on a fait depuis quelques temps, c'est de ne pas aborder les sujets qui nous tiennent à cœur quand on est en famille, parce que le peu de fois on a essayé de le faire, ça s'est pas très bien passé. On préfère ne pas aborder ces sujets, et je pense que du coup on est frustrés ouais, je pense qu'on a besoin de ça. Et je pense que moi, clairement, hein, quand j'ai ces discussions avec des gens, bah, ça me fait du bien aussi de me rendre compte que voilà, il y a des gens qui captent des choses. Et moi, je suis frustrée à chaque fois de rentrer de ces week-ends familiaux et de me dire, bah oui, on a gardé le lien avec nos familles, nos amis très proches, c'est important. On a gardé ces liens-là et en même temps, on a passé 5-6 heures sur la route. Des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, par contre, on les a laissés de côté. Nos parents, nos frères et sœurs, c'est des gens qui sont importants pour nous, avec lesquels on a envie de garder du lien, avec lesquels on a envie que nos enfants y partagent des choses. Et voilà, et je pense que c'est un de nos gros challenges là dans les mois à venir, c'est comment on arrive à aborder ces sujets-là avec eux, en le faisant en bonne intelligence, en arrivant à discuter, en parlant de nos sentiments, de nos ressentis. Et puis qu'eux aussi puissent exprimer leurs sentiments, leurs ressentis, comment on arrive à discuter et à mettre tout ça autour d'une table. Je pense que c'est un de nos objectifs voilà, de l'été, hein. Clairement, il va falloir qu'on arrive à échanger, discuter sur ces sujets-là. Et voilà, moi, je suis convaincue, et comme c'est le cas en politique, qu'on n'a pas tous les mêmes idées. Et c'est pas grave, enfin, tant qu'on est conscient et tant qu'on défend notre idée, bah allons-y, mais j'ai envie qu'on puisse échanger sur ces sujets-là. Donc y a du boulot là-dessus pour pas que ça devienne une frustration et pour pas qu'on reste sur des relations qui soient justes. Bah ouais, on passe voilà, on fait un jeu de société ensemble et que ça s'arrête là. Enfin voilà, je pense moi j'ai envie d'aller plus loin en tout cas dans nos relations, quoi.
Il y a un autre sujet qui me travaille, c'est toujours un peu relatif à l'efficacité, mais en tout cas par rapport à mon boulot. Alors ça fait pas mal de temps que j'y réfléchis, mais moi je suis dans un système très porteur, c'est-à-dire que je suis capable de faire beaucoup plus d'argent que ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai choisi un métier, en tout cas une entreprise qui a de l'impact, où j'ai un cadre de travail libre, etc., etc. Et en fait, si je réfléchis en termes d'efficacité pure, c'est pas forcément l'approche la plus efficace, dans le sens où je fais avancer un projet, mais par contre c'est tout. Si j'avais une autre approche où je me disais que moi j'ai une action un peu nulle, que je fais rentrer juste plein d'argent, genre 10 ou 12 000 balles par mois, je serais capable de éventuellement financer des projets beaucoup plus, c'est-à-dire peut-être 3 ou 4 personnes qui travailleraient à fond dans le mois que voilà, ou alors payer un local, ou devenir en fait une sorte de mécène, et éventuellement ne pas le faire tout seul non plus, qu'on puisse imaginer que d'autres personnes qui soient dans des domaines porteurs comme le mien soient capables de se dire, bah ok, on s'en fout, on regarde pas comment on fait le fric, ça reste légal, hein, ne vous inquiétez pas, mais par contre on réussit à faire un pot commun et on crée du collectif avec ça. On redirige cet argent qui vient de quelque part, du monde simplement capitaliste, hein. C'est pas de la mafia, c'est juste des gens qui veulent travailler, enfin qui veulent créer des projets. Et voilà, en tout cas cette question là elle me travaille un petit peu en ce moment. Si vous avez aussi vous de votre côté quelques avis là-dessus, n'hésitez pas à m'en parler, mais ça c'est peut-être quelque chose que je pourrais envisager, un de ces quatre, parce que l'objectif c'est vraiment l'efficacité par-dessus tout. On a plus le temps de perdre du temps, donc je pense que j'ai de l'impact dans ma boîte actuelle, mais je pense que je peux avoir plus d'impact encore. Est-ce que tu as d'autres sujets un peu limitants ou difficiles que tu voudrais aborder?
Non.
Et donc on va pouvoir passer à la partie sur les objectifs, ce qu'on envisage de faire sur le mois de juin. Alors, je t'écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire ce mois-ci?
Moi, le mois de juin est un mois particulier pour les profs, parce que du coup, j'ai pas beaucoup de convocations cette année. J'ai la chance d'être convoquée que pour quelques surveillances et de ne pas avoir été convoquée pour le grand oral, ce qui fait que ça me libère à peu près 2 semaines et demie de temps à la maison sans enfant. Donc moi, j'aimerais bien... On avait l'envie de faire bouger un petit peu les chambres là-haut. Et donc, un petit peu de peinture dans les deux pièces qui sont... pas les plus jolies de la maison, qui sont restées dans leur jus très orangé et jaune. Et puis, restructurer un petit peu, peut-être aménager pour Kéo et Tim un vrai espace bureau, parce que l'entrée en sixième, je pense qu'ils ont besoin de plus d'espace pour travailler. Et puis, séparer un petit peu les trois petits aussi pour avoir peut-être des endormissements un peu plus, un peu plus cool. Donc, un objectif quand même pas mal tourné sur la maison.
Et pour aller dans la même veine, non pas tourner dans la maison, mais tourner dans le jardin, au niveau du potager. Évidemment, là, le mois de juin, c'est la sortie de tout ce qu'on a déjà planté. Mais c'est aussi le bon moment pour anticiper l'automne, avec les choux de Bruxelles, les choux-fleurs, tous ces trucs-là. Donc là, ça va être un des objectifs aussi... qu'on s'était donné au niveau de l'année, de réussir à avoir un potager sur trois trimestres. Donc ça fait partie des choses. Évidemment, par rapport à ce qu'on a dit dans la partie d'avant, là, par rapport au positionnement avec les proches, avec les familles, amis et compagnie, on aimerait réussir à préparer une sorte de mode opératoire pour réussir à discuter de ces choses-là. Là, aujourd'hui, on discute pas, alors que il faut, je pense, au moins pour se dire vraiment les attentes des uns et des autres, et puis mieux se comprendre, parce que je pense qu'on est capable de se comprendre. Là, ce qui nous angoisse aujourd'hui, c'est qu'on n'en parle même pas. On fait comme si de rien n'était. Donc ça fait partie des objectifs du mois de juin, de réussir à organiser quelque chose. On a déjà quelques pistes, peut-être avec l'organisation de fresques du climat. D'ailleurs, tu as une fresque du climat qui est organisée au mois de juin, donc je te passe le micro.
C'est ça, l'objectif du mois de juin, le 24 juin, je crois, si mes souvenirs sont bons. Une fresque, la première. Donc, c'était l'objectif d'en animer une avant l'été. Donc, on va se lancer. On verra. Je vous en reparlerai le mois prochain.
Et en parlant de fresque, du coup, moi, j'ai eu l'occasion, j'en ai pas parlé dans les succès, mais du coup, j'ai eu l'occasion d'assister à une fresque du numérique. Donc, le mois dernier, j'avais fait une fresque du climat. Là, ce mois-ci, j'ai fait une fresque du numérique. Et du coup, je vais essayer de faire une fresque de la biodiversité. Peut-être le mois prochain, et dans le but d'être capable après de l'animer aussi par chez moi, mais aussi n'importe où où ça pourrait être utile.
Moi, j'ai un dernier objectif boulot quand même, avec l'idée que ces journées qui se sont ouvertes, j'aimerais bien aussi préparer la rentrée, avoir un petit peu plus, être plus sereine, parce qu'une fois que les enfants sont en vacances, il y a plus de temps quasiment de préparation de cours. Donc l'idée de... J'ai déjà fixé des rencontres avec mes collègues de terminale. Et puis, l'idée d'avoir déjà une première... savoir un peu ce que je fais au moins sur septembre-octobre, de pouvoir... Et puis la progression sur l'année, pour être plus sereine aussi cet été.
Et mon objectif, que je sais que vous attendiez tous impatiemment, dont j'ai pas prononcé le mot dans les succès, c'est communaux. Car en effet, j'ai pas réussi à bosser. En fait, le souci du printemps, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses à faire. En fait, j'adorais le mois de décembre, janvier, où tout le monde, enfin, il y a personne qui t'emmerde parce que à 20h, il fait nuit. Là, en fait, au printemps, c'est difficile, je trouve. Il y a beaucoup trop de sujets, beaucoup trop de projets, beaucoup trop d'activités de partout. Et du coup, j'arrive pas à être l'oiseau de nuit que je suis et qui me permet d'être très efficace sur ces projets-là. Donc, en plus, j'ai eu mon ordinateur qui m'a lâché, qui est tombé en panne. Je l'ai récupéré aujourd'hui. Donc, là, j'avais réussi à bosser un tout petit peu début mai. J'espère franchement réussir à J'y crois tellement plus depuis le temps que je le dis, mais j'espère vraiment réussir à sortir une version là pour le mois de juin, fin juin. Et puis ce serait une super idée de réussir à le sortir pour la fête avec Jetting et Collectif, quoi. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Et puis avec évidemment ce que vous aimez beaucoup, la petite lecture de fin de podcast. L'abandon. Pour vous expliquer ce que j'entends par là, je vais vous raconter une histoire traumatisante et qui fut pourtant d'une grande richesse pour moi. C'était en 2015, lors de Europe, un rassemblement d'un peu plus de 15 000 jeunes scouts à Strasbourg. J'occupais en binôme avec Marion le rôle de maire de village qui consistait à garantir la logistique, la sécurité, l'animation de ce fameux village de plus ou moins 500 jeunes. Le rassemblement venait juste de commencer quand nous fûmes touchés par une mini-tornade en pleine nuit, vers 1h du matin. Jamais je n'avais été aussi vulnérable face aux éléments. Quelle force démente! Le vent avait littéralement arraché toutes les installations. Je me souviendrai probablement toujours de cette yourte qui s'était envolée à quelques mètres de hauteur pour venir s'écraser au sol, de ces barnums professionnels, pourtant solidement attachés, qui s'arrachaient comme des vulgaires tonnelles, ces piquets et autres matériaux projetés qui me frôlaient dans une obscurité aveuglante. La pluie tombait en trombe, quasiment à l'horizontale. Elle me giflait tout le corps et ce vent me faisait tomber à terre. Il m'avait fallu une trentaine de secondes pour que ma femme et mes deux enfants se rappellent à moi et me fassent rebrousser chemin, moi qui avais couru dans l'autre sens, guidé par l'instinct de survie. Telle une injonction au courage, le souvenir de mes rôles de père et de mère de village m'avait transcendé, donné la force de refaire 100 mètres face à ce vent ravageur et de retrouver dans l'obscurité totale ma tente aplatie. Écrasée par la brutalité du vent, Marion tenait dans ses bras et face au sol nos deux enfants. Personne ne pleurait tant ce qui se passait était violent et intense. Il n'y avait que du désarroi. Très vite, le plan s'est dessiné dans ma tête. La première étape était de mettre en lieu sûr les enfants et le seul endroit était une voiture garée à quelques mètres. Le vent, la pluie ne faiblissaient pas, mais je devais ressortir pour aller chercher les clés de la voiture dans ce qui restait du barnum central éventré. Après quelques longues minutes, je finis par les trouver et je pus sécuriser les enfants. Pour avoir travaillé avec les autres maires de village sur des scénarios similaires, je savais que le zénith à proximité pouvait être réquisitionné et qu'il allait falloir organiser le convoi des 15 000 jeunes. J'avoue que lorsqu'on avait travaillé sur ces scénarios de crise, je ne les avais pas pris au sérieux. Je m'étais même dit que, franchement, c'était un peu inutile. Quand la tempête commença à se calmer, je sortis pour accompagner les premiers jeunes qui sortaient également de leur tente. Le silence du toki était difficile à accepter. Pourquoi l'organisation générale de l'événement ne disait rien? Quand arriva l'ordre d'évacuer vers le zénith, ce fut une sorte de délivrance. J'allais enfin pouvoir guider et rassurer les jeunes dont j'étais responsable. Alors, on a organisé cette évacuation de 15 000 jeunes adolescents vers le zénith de Strasbourg en pleine nuit. Quasiment personne ne dormit cette nuit-là, mais même si ce fut difficile à vivre pour quelques jeunes, la quasi-totalité chantait et plaisantait de la situation, la meilleure nuit de leur vie. Lorsque l'heure du constat et de la reconstruction du village arriva, je me suis personnellement effondré en sanglots. J'étais fatigué, bien sûr, j'étais reconnaissant d'avoir pu réagir comme je l'avais fait, mais j'avais absorbé une pression gigantesque et ça retombait enfin. À ce moment, j'ai eu la chance d'avoir des épaules sur lesquelles pleurer, mais surtout des personnes à qui parler, et notamment Anne, une pédopsychiatre, qui m'expliqua pourquoi j'avais été aussi secoué et pourquoi les jeunes, non. En tant que responsable de village, j'avais pris sur mes épaules la peur de ces 500 jeunes dont j'étais responsable. J'avais organisé, avec mon équipe évidemment et en relation avec l'équipe pilote, la mise en sécurité. Et c'est parce que les jeunes avaient vu et compris que nous adultes étions aux commandes qu'ils n'avaient pour la plupart pas eu peur et qu'ils n'en resteraient pas traumatisés. Mais dans la tempête qui s'annonce, les jeunes générations comprennent que ce n'est pas sous contrôle. Elles voient que celles et ceux qui sont aux commandes n'agissent pas comme il le faudrait. Pire, elles entendent fréquemment que c'est leur problème et que la vie des boomers est derrière eux, qu'ils sont fantastiques à s'engager comme ils le font. Ce désengagement des générations du dessus, 40-60 ans, est pour moi un catalyseur clair de l'éco-anxiété des jeunes, qui désignés comme les sauveteurs du monde, se sentent minuscules et bien impuissants.